Bonjour frères et sœurs, bonjour les amis. J'ai été effectivement amené cette semaine à réfléchir sur le fait d'être un enfant de Dieu ou pas. Ce qu'est en réalité un enfant de Dieu. Et Pierre l'a lu tout à l'heure dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc, j'aimerais vous poser cette question que je me suis posée à moi-même d'abord, bien sûr, et peut-être elle va vous étonner. Êtes-vous un chrétien ou un disciple de Jésus-Christ? Alors ce mot chrétien ou cette expression disciple de Jésus-Christ devrait pour tous les enfants de Dieu, qui je l'espère dans cette salle est la majorité d'entre nous, signifier la même chose, n'est-ce pas? Être un chrétien ou un enfant de Dieu devrait signifier la même chose, c'est-à-dire une personne pécheresse, mais qui se sait graciée par le sang de Jésus-Christ, qui a donc reçu la lumière de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même dans son cœur comme Sauveur et Seigneur, et qui désire vouloir le suivre de tout son cœur, et en particulier dans l'obéissance. C'est ça, être un chrétien ou un enfant de Dieu. Pourtant, j'ai constaté, alors par des discussions avec certains d'entre vous, avec d'autres, et en entendant également les uns et les autres, soit en parler, soit dans des discussions éparses, beaucoup pensent que l'on peut être chrétien sans être disciple de Jésus-Christ. Bah oui, je l'ai entendu plusieurs fois, même ici. Même dans l'Église du Seigneur, alors je ne vous ai pas interrogé là-dessus, mais il semble bien que certains d'entre nous parviennent à faire la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Et dire, ah ben, lui, il est chrétien, mais il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Et puis, lui, il est chrétien, hein, mais il est aussi disciple de Jésus-Christ. Ah, il peut y avoir encore d'autres nuances. D'autant qu'il est très facile aujourd'hui de le dire et de le penser parce que les statistiques sur le sujet indiqueraient qu'il y ait pas loin de 1 milliard de chrétiens sur la Terre sur 7 milliards de personnes, d'êtres humains. 1 milliard, près de, d'un milliard de chrétiens. Oh là là, le Seigneur doit être content. Et on se demande d'ailleurs quels ont été les critères qui ont permis de fabriquer ces statistiques pour les distinguer des autres, ceux qui ne sont pas chrétiens. Et quels sont pour nous nos critères pour faire cette distinction ? Et peut-être on se demande s'il est, il est légitime de penser ou de croire qu'il est normal de faire ce distinguo entre un chrétien et un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous n'avez jamais eu cette pensée à l'esprit ? comme s'il y avait dans la famille de Dieu, d'un côté, des personnes régénérées, pensant avoir le droit de continuer à mener sa vie, leur vie, comme ils le veulent. Ça, c'est le chrétien. Et puis, de l'autre, des personnes régénérées, elles aussi, qui, au bout d'un certain temps, ont compris eh bien, que le Seigneur demandait à ce que l'on marche dans l'obéissance à sa voix, à ses commandements. Et là, il s'agirait plutôt d'un disciple de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il n'y a rien de tout cela dans la parole de Dieu. Et c'est donc faux de le penser ou de le croire. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucun enseignement du Seigneur Jésus sur le fait de faire la distinction entre un chrétien et un disciple. Pour le Seigneur, utiliser l'un ou l'autre pour nommer un enfant de Dieu, c'est la même chose. C'est interchangeable. Un chrétien est un disciple. Un disciple est un chrétien. En tout cas, pour le Seigneur. S'agissant de la parole de Dieu. Et ce sont les hommes qui modifient la pensée du Seigneur et qui pensent qu'il y a des distinctions. Pour le Seigneur, c'est la même chose. Quand on pense, par exemple, à Jean, Jacques, Pierre, André, et puis tous les autres que l'on voit dans la parole de Dieu, et comment leurs vies ont été décrites, leur rencontre avec le Seigneur. À l'instant même où ils ont décidé de suivre Jésus, et surtout d'obéir à son enseignement, alors ils sont devenus des disciples de Jésus. Des chrétiens, quoi. Il a dit, et ils ont fait. Le Seigneur Jésus les a invités, et ils ont répondu à l'invitation. Le Seigneur Jésus a ordonné, et ils ont obéi. Et la parole de Dieu nous montre que, au début des évangiles, qu'ils sont devenus les disciples de Jésus. Mais pourquoi pas alors des chrétiens ? Mais simplement parce que le thème chrétien, c'est-à-dire de Christ, n'est apparu que bien plus tard, après que l'Église fut battue par le Seigneur lui-même. Et c'est par exemple dans Actes chapitre 11, verset 26, qu'il est dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, je cite, « les disciples furent appelés chrétiens ». Mais au temps de Jésus, les enfants de Dieu qui étaient devenus des enfants de Dieu étaient appelés des disciples du Seigneur, c'est-à-dire des gens qui suivaient Jésus et qui obéissaient à sa voix et ses commandements. Ce n'est que par la suite que ce terme avait été utilisé pour désigner des gens et les identifier comme des personnes suivant le Seigneur Jésus dans l'obéissance. Alors, on les avait identifiés comme étant de Christ. Et donc, on les avait appelés des chrétiens. Si bien qu'un disciple est donc un chrétien, et un chrétien est un disciple. Ce sont les hommes, pour justifier leur comportement déviant, qui ont changé le sens de ces mots, et affirmer qu'il existe deux types de vrais croyants. Des chrétiens qui n'obéissent pas franchement au Seigneur, et puis des disciples. Eux, ils obéissent au maître. Grossière erreur, mes amis, frères et sœurs. D'ailleurs, à ses disciples, Jésus avait ordonné de faire de toutes les nations... Alors, pas des chrétiens, parce que le mot n'existait pas. Des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire des gens qui suivent la voie du Maître et obéissent donc à leur Seigneur. ceux-là sont de vrais chrétiens, des gens qui sont devenus chrétiens ou qui sont devenus disciples de Jésus-Christ. Et les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que le baptême d'eau permet donc pour le nouveau disciple d'exprimer devant tous le fait d'appartenir désormais au Seigneur avec le désir de le suivre désormais dans l'obéissance. Il n'y a que ça qui compte finalement pour un nouveau disciple, c'est de suivre son maître. Et en passant par les eaux du baptême, donc le disciple s'y engage. Ça, c'est formidable. Lorsque un nouveau converti demande à se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'il s'engage donc à travers le baptême d'eau, parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit au préalable, de s'engager à suivre son Seigneur, son Sauveur et son Maître dans l'obéissance. Il est alors devenu un chrétien, un disciple de Jésus. Pour mieux comprendre encore ce qu'est un chrétien ou un disciple, et ce qui le caractérise, parce que souvent nous l'oublions, j'aimerais que nous écoutions ce que nous dit la parole de Dieu, et en particulier dans Matthieu chapitre 7. Prenez avec moi ce passage, qui est une invitation parmi tant d'autres de la part du Seigneur Jésus. Et cette invitation se trouve dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Nous lirons plusieurs versets à la suite. Matthieu 7, verset 13. Voilà l'invitation du Seigneur, elle est là dès le premier verset. Et nous lirons jusqu'au verset 29. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux docteurs, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera, c'est-à-dire entrer par la petite porte, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire la personne qui passe par la grande porte, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ce passage, d'une certaine manière, clôture tout l'enseignement de Jésus lorsqu'il était sur la montagne. On appelle le sermon, voilà, sur la montagne. Un avertissement solennel qu'il donne là au verset 27. Et sa ruine a été grande, nous dit-il, en parlant de celui qui n'avait pas suivi Jésus. Sa ruine sera grande.
Et donc, dans sa vie, on ne se soumet pas à ce que dit le Seigneur, ni à ce que les apôtres ont enseigné dans toute la parole de Dieu. On peut être étonné, on peut être émerveillé, on peut être admiratif face au Seigneur, à sa vie, devant les choses de Dieu, sans jamais vouloir incliner son cœur pour venir à lui dans l'obéissance de la foi. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on le voit, la foule le suivait, elle écoutait son enseignement. Mais c'est tout. Le Seigneur Jésus nous dit ce matin, au verset 13, reprenez avec moi ce verset. Il nous dit, verset 13, « Entrez par la porte étroite. » Alors, ce n'est pas la première fois que devant Dieu, que les hommes se trouvent devant ce double choix, n'est-ce pas ? Alors, j'ai cherché cela, il y en a des quantités dans la parole de Dieu. Et l'Ancien Testament en est rempli, par exemple, je vais en prendre un, mais je vous en cite plusieurs, des passages bien connus de Deutéronome 30, versets 19 et 20, où il est dit que Dieu nous met devant la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Il y a aussi, au temps du prophète Élie, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21, où là, Élie disait à ceux qui étaient autour de lui, mais pendant combien de temps vous allez clocher des deux pieds ? En leur suggérant fortement de faire un choix précis. Ou dans Jérémie, chapitre 21, verset 8, de la même façon, il est question du chemin de la vie, du chemin de la mort, ce double choix qui se présente devant les hommes. Et pour prendre celui-là, Josué, chapitre 24, prenez avec moi Josué, chapitre 24, qui en parle aussi, et où là, un serviteur de Dieu, conscient qu'il y a ce double choix, va en faire un. Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. Josué 24, versets 14 et 15. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Ça, c'est le chrétien, le disciple. « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il nous dit, mais faites un choix, que le choix soit clair, précis et sans ambiguïté. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi, j'ai choisi, dit Josué. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, nous lui obéirons, nous écouterons sa voix, et par la force qu'il nous donnera, nous mettrons en pratique tout son enseignement. Moi et ma maison, nous servirons. Alors, il est possible que Jésus se soit inspiré d'un de ces passages, et je pense en particulier à Jérémie 21, verset 8, qui nous parle du chemin de la vie et du chemin de la mort. Donc, vous reprendrez ce verset. Il est possible que le Seigneur se soit inspiré de ces textes, de l'œuvre de ces passages, pour présenter l'évangile, symbolisé par la porte étroite, et la perdition symbolisée par la grande porte. Il affirme que la majorité des gens passent par la porte large. La majorité. Peut-être même, je dirais, la grande majorité. Est-ce que c'est votre cas? Par où êtes-vous passé? Il affirme, oui, que eh bien, ceux qui passent par cette porte large, ce sont les religieux. Et même beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, vous savez, ne font pas exception à cette règle. Parce qu'il leur a dit, mais vous dites que vous l'êtes, mais moi je ne vous ai jamais connu. Et vous savez, Satan est un grand expert pour arranger les choses et présenter le mensonge comme une grande et belle vérité. En arrangeant cette grande porte pour la peindre avec un tas de belles couleurs, pour qu'elle soit rendue attractive et que nous puissions, sans hésitation et sans se poser de questions, la franchir, cette grande porte. Et puis, il va lui donner l'apparence de la vérité, en inscrivant sur le linteau de cette grande porte, « Route vers le ciel, allez-y !» La fin justifie tous les moyens pour le diable. Il va tout utiliser pour emmener avec lui tous ceux qui le perdent. Et ça marche. Le diable est celui qui plus que jamais se déguise aujourd'hui en ange de lumière. Et la séduction fonctionne alors à merveille. Combien aujourd'hui de personnes qui se disent chrétiennes font la volonté du Seigneur, font la volonté du Père. Lorsque l'Église elle-même que Dieu a bâtie et à qui il a délégué ses responsabilités organise des réunions d'édification, des réunions d'évangélisation. Si nous étions tous des chrétiens, des disciples de Christ. En tout cas, je parle de ceux qui sont capables, dans le sens où ils ont la santé pour le faire. Mais tout le monde devrait être là. Tout le monde. Sans exception. Ceux qui le peuvent. Pierre a donné quelques indications tout à l'heure sur le nombre qui était là dimanche dernier pour un effort d'évangélisation. Parce que l'Église y a pensé, parce qu'on a le souci des âmes à l'extérieur qui sont perdues. Et nous voudrions, par ce simple geste, en leur offrant une offre de calendrier, des traités qui parlent de la parole de Dieu, que les gens puissent lire cette parole, la parole de vie, et puissent être touchés à travers elle. N'avons-nous pas le souci autour de nous de ceux qui se perdent? Mais le diable nous dit et reprendra et le dira sans arrêt, ne prenez pas cette petite porte étroite. Qui plus est, vous ne pourrez même pas la franchir. Donc ne la prenez pas. Parce que vous ne pouvez pas la franchir avec des valises pleines et larges. Avec la petite porte, vous ne pouvez pas passer avec toutes vos valises, vos affaires personnelles. Vos objets de valeur, elle est toute petite. Moi, je vous propose de rencontrer Jésus en apportant tout avec vous, en prenant tout avec vous, toute votre vie passée. Et là, vous allez pouvoir passer cette grande porte. Oui, si c'est ça, j'y vais. Combien de personnes ont été séduits par ce discours du diable. c'est la porte de la religion des masses, par laquelle tout le monde peut passer. C'est facile. En emmenant avec soi ses valises personnelles, ses possessions matérielles, et même ses péchés. Soi-disant pour même pour rencontrer Jésus, en passant par ses pauvres. Tout est au lieu, tout est admis. Qu'est-ce qui est beau cet évangile qui permet d'ajouter à triste les ordures de toute ma vie. C'est simple. Malheureusement, beaucoup s'y sont engouffrés. Et s'y engouffrent encore. Sans savoir, pour beaucoup d'entre eux, que c'est la ruine qui les attend. Comme Jésus nous l'a précisé dans ce passage. Notre Seigneur, qui désire plus que tout notre salut, a indiqué la bonne porte, la porte étroite dont il est le détenteur. Je suis la porte des brebis. Entrez, c'est son invitation. Entrez par la petite porte. Alors, peut-être on peut se demander, mais pourquoi le Seigneur a fait en sorte que la porte soit petite et si étroite. On a du mal, peut-être, à la franchir, à y passer. Même pour plusieurs raisons. D'abord, elle est petite et étroite pour que une seule personne puisse la franchir en même temps. Une seule personne, pas plus. La foi est quelque chose de personnel qui doit nous atteindre nous-mêmes, personnellement. C'est une foi, une découverte personnelle de la personne de Jésus et dans son œuvre pour soi-même. Et donc, je ne passe pas cette porte étroite avec quelqu'un d'autre ou avec tout un groupe. Je la passe tout seul de manière personnelle. C'est une rencontre authentique avec le Seigneur Jésus, qui me régénère donc par son esprit et qui me donne la force ensuite de le suivre et de marcher avec lui dans l'obéissance. Une autre raison pourquoi elle est si petite, si étroite, c'est que la trouver cette porte n'est pas du tout chose facile. Quand c'est petit, c'est moins facile de trouver cette porte que si elle est très grande, n'est-ce pas ? Contrairement à l'autre, qui est très large. Et contrairement à ce que beaucoup d'entre nous peuvent penser, mais parce que je l'ai souvent entendu, cette idée répandue que la foi est finalement quelque chose de simple. Je me souviens encore, c'était l'interrogation de mon fils aîné, il y a très longtemps. Il m'avait dit, papa, je ne suis pas encore parvenu à trouver le Seigneur. Ok. Parce que, et pourtant, je l'ai cherché de temps à autre, quand j'en avais le temps. Et la chose importante, qu'il n'avait pas encore comprise, et il ne l'a toujours pas comprise, c'est que, et là je le dis à tous les jeunes, mais aussi à nous tout ça. C'est bon pour nous tous. Qu'on ne peut pas trouver cette porte étroite qui mène à Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même, sans que nous la cherchions de tout notre cœur. Et si vous voyez ce tableau qui est devant vous, Jérémie avait bien compris cela, vous chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur seulement, c'est la condition. Le salut qui est en Jésus-Christ, devenir chrétien, devenir un disciple du Seigneur, n'est donc pas chose facile ou si facile que l'on croit. Parce que la porte est étroite, elle n'est pas si facile que ça à trouver. Mais le Seigneur nous assure que si nous la cherchons de tout notre cœur, alors nous la trouverons. Et nous entrerons par elle. Et nous deviendrons donc de véritables chrétiens, de véritables disciples du Seigneur. Dans la réalité, beaucoup s'en approchent de cette porte étroite qui mène au salut, mais sans jamais la franchir. Et vous vous rappelez peut-être de ce récit de ce jeune homme riche, n'est-ce pas, qui s'approche de Jésus et qui lui demande, mais comment hériter de la vie éternelle ou comment passer par cette porte étroite? Il ne l'a pas dit comme ça. Parce que ce jeune homme riche représente tous ceux qui ne réalisent, tous ceux qui réalisent que pour y entrer par cette petite porte, il faut abandonner derrière soi ses propres valises personnelles, ses propres biens, son propre moi. Et la majorité d'entre eux y font demi-tour, comme ce jeune homme riche, pour passer finalement par la porte large. Alors le texte ne nous dit pas si par la suite ce jeune homme riche est devenu chrétien. Et cela nécessite, en tout cas en passant par la porte large, d'abandonner aucunement son ancienne vie. Et même d'arriver à croire qu'on est quand même un chrétien en passant par cette large porte. Le Seigneur Jésus nous parle aussi au verset 14. Alors si on revient dans Matthieu chapitre 7, regardons Matthieu chapitre 7, l'enseignement est pour nous tous, n'est-ce pas? Il nous parle donc du chemin resserré, et donc difficile, en contraste avec le chemin qui est large et facile. Et le choix est toujours finalement le même qui se place devant nous, mes amis. Dans le chemin large, tout est permis, aucune restriction n'est imposée, aucune exigence n'est requise. Je peux venir avec tous mes péchés parce qu'ils sont tolérés. Il suffit de se laisser porter par le courant de ce monde, avec l'esprit de ce monde, et à ce moment-là, on peut même penser que l'on est chrétien tout en disant qu'on aime Jésus et le frère. Mais Jésus la frappe un grand coup à ce moment-là, en affirmant que seuls ceux qui font la volonté du Père sont ceux qui lui appartiennent, sont ses disciples. Le chemin resserré qui mène à Jésus, cette petite porte étroite, ne peut pas accueillir d'hommes et de femmes qui veulent se diriger eux-mêmes ou par eux-mêmes, mais seulement ceux qui sont prêts à suivre Jésus-Christ dans la foi et dans l'obéissance. Est-ce que c'est votre cas, ce matin? Il faut se poser la question. La parole de Dieu est devant nous. Elle m'interpelle. Elle m'a interpellé moi-même lorsque j'ai préparé cela. Est-ce que je suis prêt à obéir à mon Sauveur, à mon Seigneur, quel qu'en soit le prix? Regardez avec moi Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Verset 25. Cela nous l'explique. Versets 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ou il ne peut être chrétien. » Le mot n'existait pas hein, à l'époque. Vous vous rappelez? Mais c'est la même chose. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et puis, au verset 33, ainsi donc, il conclut, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà des descriptions d'un des traits du caractère et du vrai disciple, du vrai chrétien. C'est son amour pour le Seigneur, quel que soit le prix qui lui en coûte. Il est prêt à tout laisser de côté pour suivre son Seigneur dans l'obéissance. C'est ça, le disciple, le chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? La parole le dit clairement. Est-ce à dire qu'il faut haïr notre propre famille? Bien sûr que non, parce que la parole de Dieu se contredirait à d'autres endroits où il est dit « honore ton père et ta mère », où il est dit aussi « mari, aimez vos femmes ». Femmes, respectez vos maris. Et bien d'autres passages. Non, ce que le Seigneur veut dire ici est qu'on est en fait un disciple ou un chrétien à partir du moment où on accorde à Jésus-Christ l'importance suprême dans sa vie. La première priorité. Plus important que toute autre chose. Et cette autre chose, ça peut être la famille, soi-même, tout ce à quoi on est attaché le plus dans cette vie. Seigneur, d'abord. Et le reste, ensuite. Ça ne veut pas dire que le reste peut être négligé. La parole nous exhorte, par exemple, dans Matthieu 16, verset 24, qui est son le pendant de Luc, à renoncer à soi-même, c'est-à-dire à ses intérêts personnels, à son confort personnel. Est-ce que c'est ce que l'on fait? J'ai entendu la semaine dernière. Oh, je préfère rester chez moi. J'ai mérité mon repos. Et puis je travaille la nuit. La parole nous exhorte à renoncer à soi-même pour que rien dans notre vie ne fasse obstacle à une vie de soumission et d'obéissance envers le Seigneur. Romains chapitre 6, verset 11, nous dit aussi de se considérer par la foi comme mort à notre ancienne vie et ainsi ne pas laisser nous submerger par nos pensées qui nous éloignent du Seigneur, pour nos propres intérêts. Éphésiens chapitre 4, verset 22 nous dit aussi, nous exhorte aussi à nous dépouiller du vieil homme pour vivre la vie chrétienne, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et elle est belle, cette vie en Jésus-Christ. Alors on peut penser que le langage du Seigneur est un peu sévère. Mais c'est parce que Jésus ne veut que aucune personne peu enthousiaste, même si elle a le nom du Seigneur Jésus dans sa bouche, soit faussement conduite à penser qu'elle est un véritable enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ces choses. Pour que nous puissions nous mettre devant la parole et nous mettre devant ce miroir et constater si on l'est ou pas. Seul celui ou celle qui fait la volonté du Père, dit le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est notre cas? Et là, je vais répondre à une question avant même que vous me la posiez. Bien entendu, l'enseignement du Seigneur Jésus laisse toujours une place aux échecs ou aux faillites momentanées. Toujours. L'apôtre Pierre le sait très bien. Lui qui a renié son Seigneur à trois reprises. Mais sa vie, par la suite, lorsqu'il a été régénéré par le Saint-Esprit, a montré, c'était la preuve qu'il était réellement un enfant de Dieu, un chrétien, un disciple du Seigneur. Il peut y avoir des échecs, momentanément, à cause de faillites personnelles, parce que nous sommes encore misérables devant le Seigneur. Et le Seigneur peut comprendre cela. Mais les choses ne doivent pas, bien sûr, en rester là. parce qu'il y a la repentance et il y a la foi en Jésus-Christ. En tout cas, frères et sœurs, il n'y a pas une définition pour le mot chrétien d'un côté et une autre pour le mot disciple de l'autre. Les deux veulent dire la même chose. Les deux sont interchangeables. Les deux ont les mêmes caractéristiques, celles que la parole de Dieu nous donne. Le Seigneur lui-même a exprimé ses exigences quant à ce qu'est un chrétien ou un disciple. Sa caractéristique principale, c'est celle d'aimer le Seigneur plus que tout, qui se traduit obligatoirement par le désir de faire sa volonté. C'est le cas ? Ou pas ? Et de le suivre dans la soumission et dans l'obéissance. Lorsque la parole de Dieu nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous. » On obéit ? N'abandonnons pas notre assemblée, ça veut dire sous-entendu, on est déjà dans une assemblée. Si ce n'est pas le cas et qu'on se dit chrétien, oh là, il y a une double faute. Non seulement de ne pas appartenir à une assemblée, mais en plus de ne pas y être. Pour son propre confort personnel ou ses intérêts personnels. Donc, qu'en est-il de chacun de nous ? Peut-être on vivait jusque-là dans une sorte de fausse assurance qui, malheureusement, conduit aujourd'hui beaucoup de gens dans la tragédie décrite dans le chapitre 7 de Matthieu. Sa ruine, au final, sera grande. Le Seigneur, bien sûr, ne veut pas cela. Et le Seigneur nous l'a rappelé ce matin, avec cette invitation quasi solennelle. Entrez par la porte étroite. Je vous donne toutes les indications. Ne vous laissez pas séduire par d'autres choses qui vous conduiraient à passer par la grande porte. Il dit aussi, voilà, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voyez, c'est Christ lui-même qui nous montre le chemin qui mène à la vie. Et il nous donne la force nécessaire pour vivre pour lui et pour sa gloire. Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13, nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est lui qui donne la force de le suivre et de marcher avec lui dans l'obéissance. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et puis il dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 30, « Le Seigneur, mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, qu'attendez-vous pour venir à moi, puisque mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a aussi, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous passons par cette porte étroite, eh bien, il y a en effet beaucoup de joie d'être un disciple, d'être un chrétien, joie d'être à lui, joie d'être en lui, joie d'être en communion avec lui et avec tous les frères et sœurs qui sont passés également par cette petite porte. Parce que nous avons en commun le même esprit, celui du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit aussi à ses disciples dans Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, alors vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Encore faut-il que nous pratiquions les choses que le Seigneur Jésus nous enseigne. Alors, vous êtes un chrétien ou un disciple, et peut-être ce matin, un peu, je suis dans le même cas, vous avez pris conscience que vous avez peut-être désobéi ou l'être dans votre vie personnelle ou dans votre vie d'église. La parole de Dieu nous dit, si je confesse mon péché, Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est le Dieu miséricordieux que nous avons en Jésus-Christ. Nous pouvons donc revenir à lui dans la repentance, dans la foi. Et le Seigneur nous accueillera à bras ouverts. Et puis, vous n'avez pas, peut-être quelques-uns d'entre nous, fait le pas de la foi. Vous n'avez pas franchi cette porte. Et pourtant, le Seigneur vous invite à le faire, même ce matin. Et il vous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà, que le Seigneur nous sanctifie tous par sa parole et nous bénisse. Merci notre Dieu pour ta parole, qui est effectivement une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre chemin, elle éclaire notre cœur, elle éclaire notre conscience sur le fait que bien souvent nous faisons fausse route. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu plein de compassion pour nous. Mais tu ne tolères pas le péché. Tu veux que nous revenions à toi dans la repentance et la foi si cela est nécessaire. Lorsque tu nous vois, eh bien, négliger les choses qui te concernent parce que nous avons préféré notre propre confort. Pardonne-nous, Seigneur. Et fais-nous du bien par ta parole. Sanctifie-nous par elle. Nous t'en prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.